le livre des Rois. Alors, il s'agit d'un texte et d'une histoire bien connue des lecteurs de la Bible, 2 Rois chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 1. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. » Amen. Alors, la lèpre, c'est une maladie infectieuse due au bacille de Hansen. Alors, c'était une des maladies les plus redoutées de l'époque. Certaines de ces formes étaient extrêmement contagieuses et parfois même incurables. Alors, la lèpre, c'est une maladie vraiment terrible. Hein. Elle entraîne des troubles sensitifs, des troubles moteurs, et il y a des maux perforants qui vont nécroser la peau, les cartilages, jusqu'aux os, jusqu'aux viscères. Et ainsi, l'homme, la femme qui est atteinte de cette maladie va perdre nez, extrémités, oreilles. Et dans le pire des cas, cela va aller jusqu'à la mort. Ce n'est pas réjouissant comme programme. Hein. quelle maladie terrible. Naaman est frappé d'une maladie terrible, une maladie incurable. Alors Naaman, ce n'est pas un homme comme vous et moi, hein. Enfin, pas comme moi en tout cas. Naaman, c'est pas n'importe qui. Naaman, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Naaman, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Il est général de l'armée du roi de Syrie. Qui plus est, le texte précise que c'est un général victorieux. Un général victorieux. Il jouit d'une grande considération et il est estimé du roi lui-même. Son propre roi, là, en considération et l'estime. Et malgré tout cela, il est malade. Alors on peut imaginer que, vu sa position, il est allé voir les meilleurs spécialistes du pays. Il est allé voir les meilleurs médecins. Il a dû prier ses dieux. Il a dû offrir de coûteuses offrandes, faire de somptueux sacrifices à ses dieux pour arriver à se débarrasser de cette lèpre et vivre, simplement vivre. Mais rien n'y a fait. Il est toujours lépreux, il est toujours malade, malgré son or, malgré sa vaillance, malgré sa position, malgré ses succès militaires, Naaman est lépreux. Naaman va se décomposer petit à petit et Naaman va mourir. Que c'est triste, que c'est triste. Et il faut reconnaître qu'il y a des choses auxquelles l'homme, la femme ne peut pas échapper. Quel que soit le niveau social, quelle que soit la condition, quelle que soit l'épaisseur du portefeuille, quelle que soit la lignée familiale, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. La maladie, la mort, encore plus que la maladie, en font partie. Steve Jobs, fondateur d'Apple, homme brillant, intelligent, riche à millions, mort d'un cancer. Nino Cerruti, j'ai pas un de ses costumes, hein, mais il y en a qui en ont. Je sais pas si tu en as, Frédéric, des costumes Cerruti. Non, tu en as pas. Dommage. Célèbre styliste italien. Il est mort en janvier à 91 ans. Il avait bien vécu déjà. Il est mort. Tout styliste italien célèbre et talentueux qu'il était. Napoléon, mort. Albert Einstein, mort. Louis Pasteur, mort. Et on peut même mourir jeune et en bonne santé. Je lisais que Gaspard Ulliel, un jeune acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un jeune acteur mannequin, admiré, il est mort d'un accident de ski. Mort d'un accident au ski le mois dernier. Il avait tout pour réussir. Il avait réussi, enfin, selon les critères du monde en tout cas. Il était jeune, il était beau, il était admiré, il était connu, il était en bonne santé. Et voilà qu'il est mort. Les anonymes meurent aussi, hein. Vitalis Kakoun, jeune soldat ukrainien, mort en défendant un pont proche de la Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Quand Dieu décide que c'est l'heure, c'est l'heure. Vieux, jeune, en bonne santé, malade, connu, anonyme, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand Dieu rappelle, quand Dieu enlève le souffle de vie, eh bien l'homme meurt. Job, dans le livre éponyme, appelle la mort le rendez-vous de tous les vivants. C'est notre rendez-vous. On n'y échappera pas. C'est votre rendez-vous et c'est le mien, le rendez-vous de tous les vivants. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Job chapitre 30, verset 23. L'Ecclésiaste écrit la chose suivante. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Le rendez-vous de tous les vivants. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien. Les sages meurent. L'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leur bien à d'autres. Psaume 49, chapitre 10, verset 11. Les intelligents, les cultivés, les incultes, les ignares, l'être humain est destiné à mourir. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Je vous souhaite à tous la vie la plus longue et la plus heureuse possible, la vie en meilleure santé possible, mais d'une façon ou d'une autre, à plus ou moins brève échéance, nous avons tous rendez-vous avec la mort. Tous rendez-vous avec la mort. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Une petite fille du pays d'Israël dit à la femme de Naaman qu'un prophète de Dieu peut le guérir. Et par là même, changer le cours de sa vie. Imaginez quelle transformation pour Naaman d'être à nouveau le grand général du roi de Syrie, mais en parfaite santé. Quel changement dans la vie de cet homme. Un prophète de Dieu peut le guérir. Un prophète de Dieu peut le guérir. La Bible déclare que si notre corps physique est destiné à la mort, si notre corps physique va mourir, notre esprit, notre âme est immortelle et qu'elle passera l'éternité avec Dieu au paradis ou l'éternité en enfer avec Satan. Jean chapitre 5, verset 28 nous rappelle ceci. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qu'il a donné. Pardon, c'est Ecclésias chapitre 12, verset 6. Maintenant, c'est Jean chapitre 5, verset 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Daniel chapitre 12, verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'honneur, pour l'horreur éternelle. On va vivre éternellement. Éternellement, c'est une certitude. Le tout, c'est de savoir à quel endroit. Le tout, c'est de savoir avec qui et dans quelles conditions. Mes amis, avec qui voulez-vous passer l'éternité? C'est une question capitale, primordiale. Avec qui veux-tu passer l'éternité? Avec Satan ou avec Dieu? Et cela dépend de toi. Cela dépend de ton choix. Cela dépend de ce que tu décides. Alors, Naaman est syrien. Je ne sais pas quelles sont les origines ou la nationalité de chacun de vous cet après-midi. Mais nous sommes tous le résultat de mélange, de nationalité. Qui a du sang italien, qui a du sang arabe, qui a du sang africain, qui a du sang espagnol. Naaman, lui, il est syrien. Alors, je vois qu'ici, il y a des gars pensés, je vois qu'il y a des Vénois, je vois quelques embrunés, même de Champsella, de la vallée de Frayssinière. Naaman est syrien. Mais Dieu n'est pas le Dieu des Juifs. Il est leur Dieu aussi. Mais Dieu n'est pas le Dieu des Juifs. Dieu est le Dieu de toute la création. Amen. Il est le Dieu de toute la création. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Dieu ne cantonne pas sa bénédiction et son offre de salut aux seuls Hébreux. Naaman est syrien. Il a le droit, lui aussi, à la guérison. Il a le droit, lui aussi, au salut. Quelle que soit ton origine, ta nationalité, ta condition sociale, tu as le droit au salut. Dieu est ton créateur et il veut devenir ton Père céleste. Il veut rétablir ce que le péché a brisé. Il veut rétablir cette communion, cette intimité entre lui et toi. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les hommes et les femmes, lorsqu'il s'agit des hommes, il est bien entendu que ce sont les hommes en général, en tant qu'espèce. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Depuis la désobéissance et le péché d'Adam et Ève, Dieu, sans interruption, œuvre pour réconcilier l'homme avec lui. Il n'a cessé, depuis cette séparation due à la désobéissance et au péché, Dieu n'a cessé de tout faire pour rétablir ce qui a été brisé, pour retrouver ce qui a été perdu. Une communion, une intimité entre le Créateur et sa créature, sans entrave, sans impossibilité. Le péché a rendu cela absolument impossible. Alors il a fait alliance avec Abraham, il a choisi un peuple qui lui appartienne. Il a traité avec soin, il a gardé, préservé les Israélites. Et de ce peuple, il est sorti Jésus-Christ. Il est sorti le Messie. Le salut vient des Juifs, nous dit la Bible. Romains chapitre 1, verset 3. Son fils, qui en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Oui, le salut vient des Juifs. Jésus est issu du peuple juif. Mais Dieu est le Dieu de toute la création. Je cite d'assez nombreux textes bibliques cet après-midi, mais je tiens à ce que, plutôt que mes paroles, la parole de Dieu parle à votre cœur. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante, et je veux qu'elle fasse son œuvre en vous, qu'elle touche votre cœur au plus profond, et que par son intermédiaire, vous puissiez accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et retrouver Dieu comme Père. Ésaïe chapitre 19, verset 23. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains et Israël, mon héritage. » Amen. Dieu est le Dieu de tous les peuples. Dieu est le Dieu de toute la création. Égyptien, Assyrien, Syrien, Dieu veut sauver tout le monde. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton Sauveur. Il veut être ton Père. Il veut être celui qui dirige ta vie. Il veut être celui qui prend soin de toi. Il veut être celui qui vient te chercher lors de son retour pour te prendre avec lui pour l'éternité. Voilà la proposition que Dieu te fait cet après-midi. Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Naaman, il ne part pas les mains vides. Hein. Il est recommandé par une lettre de son roi. Le roi de Syrie écrit à son vassal, le roi d'Israël, le roi de Juda, et il recommande Naaman. Et il ne va pas par quatre chemins. Hein. Je t'adresse Naaman, guéris-le. Et Naaman part avec une quantité incroyable de biens. 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de rechange. Mais c'est avec une telle capacité financière, une recommandation si élevée, il ne peut pas en être autrement. Hein. Le roi d'Israël va s'occuper de lui et Naaman va être guéri. Il n'y a pas d'autre alternative. Non, mes amis. Vous pouvez être le fils ou la fille d'un homme, d'une femme très pieuse. Vous pouvez descendre de générations de protestants, de huguenots, de générations d'hommes et de femmes qui ont sacrifié leur vie pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez être le fils, la fille d'un pasteur célèbre, d'un pasteur que Dieu a vraiment utilisé. Vous pouvez être recommandé par les plus grands de ce monde. Ce n'est pas ça qui va vous apporter le salut. Ce n'est pas ça qui va vous apporter la guérison de votre cœur. Ce n'est pas ça qui va vous débarrasser de ce péché qui est votre lèpre, qui est la lèpre de chacun et chacune dans ce monde. Non, non, c'est pas ça. Aucune de vos bonnes œuvres ne peuvent vous sauver. Peut-être est-ce que vous donnez votre argent pour les pauvres, pour les bonnes œuvres. Peut-être est-ce que vous travaillez à la Croix-Rouge. Peut-être est-ce que vous invitez des hommes et des femmes qui sont dans le besoin à venir manger chez vous. Tout cela est très beau et très bon. Hein. C'est vraiment excellent. Continuez de le faire. Mais ce n'est pas cela qui va vous sauver. Tout cela, ce sont des conséquences du salut. Mais si vous comptez là-dessus pour pouvoir acheter votre place au ciel, si vous comptez là-dessus pour pouvoir acheter l'amour de Dieu, vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement. Et Naaman et son roi se sont trompés complètement. Ils ne pouvaient pas acheter la guérison. Ils ne pouvaient pas l'obliger. Le roi d'Israël ne va pas s'y tromper. Suis-je Dieu ? Il va déchirer ses vêtements. Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Mais suis-je Dieu ? Cela appartient à Dieu. Parce que sinon, alors, il n'y a que les riches et les puissants qui pourraient être sauvés. Ce serait quand même une injustice incroyable. Moi, je ne suis pas riche et pas puissant. Ça voudrait dire que je serais condamné, que je serais perdu. Non, non, Dieu est bon. Matthieu chapitre 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Puisqu'il est impossible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, il est impossible à un riche d'être sauvé. Mais à Dieu, c'est possible. Mais à Dieu, c'est possible. Tout le monde peut être sauvé. Petit, puissant, pauvre, riche, le salut est pour tous. Le salut est pour tous. Alors, comment entrer dans le royaume des cieux ? Il faut y être introduit par Jésus. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, le seul moyen d'entrer dans le royaume des cieux, c'est de passer par Jésus. Il est le chemin, il est la porte, il est la vérité, il est la vie. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi n'y en a-t-il pas d'autres ? Parce que c'est le seul à être descendu du ciel à notre rencontre. Parce que c'est le seul à avoir payé de sa vie le prix de notre péché. C'est le seul à avoir fait cela. C'est le seul à être mort à ta place. C'est le seul à être ressuscité. C'est le seul à être retourné auprès de son Père. Et c'est lui qui va revenir chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est pour ça qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Nos ressources ne nous sont d'aucune aide. Le salut est un don. Le salut est une grâce de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23, c'est un texte que les lecteurs de la Bible connaissent bien, mais je l'ai relevé dans la parole vivante. Écoutez bien. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Voilà le message de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle de Dieu pour tous les hommes. Dieu veut que tu sois sauvé. Ton salut a un prix, mais ce n'est pas un prix d'argent, ce n'est pas un prix d'or. Non, c'est Dieu qui a fixé lui-même le prix du rachat, le prix de sa justice, le prix de son pardon. Le juste est mort. Jésus-Christ a souffert. L'agneau de Dieu a été cloué au bois parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, quelqu'un a payé le prix pour que ce soit gratuit pour toi, pour que ce soit gratuit pour moi. Quelqu'un a payé le prix. Oui, le salut en Jésus-Christ, c'est une grâce. Parce que Dieu a pourvu, parce que Dieu a payé le prix. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Ce serait de l'orgueil que de penser que par un apport personnel, quel qu'il soit, je puisse donner à Dieu quelque chose qui le satisfasse et qui permette que je sois réconcilié avec lui, que le problème de mes péchés soit réglé. Mais je suis un homme, je suis une femme, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu ? Qu'est-ce que je peux lui apporter en rançon de mes péchés ? Il est Dieu, mais je n'ai rien d'assez précieux. Je n'ai rien d'assez important. Non, je n'ai rien. Je ne peux pas obtenir la grâce de Dieu par mes propres moyens. C'est quelque chose d'impossible. Naaman, lui, il vient avec tout son attirail de général, chars, chevaux, or, lettres de recommandation, habits habit de rechange, mais c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Afin que personne ne puisse se vanter. La terre a vu passer des hommes et des femmes extraordinaires qui ont fait de grandes choses pour aider les autres. Vraiment. On peut penser à l'abbé Pierre à l'hiver 56 ou 54. 54. On peut penser à Mère Teresa. Je suis incapable de vous dire si ces hommes, ces femmes qui vont faire de l'humanitaire, ces médecins qui vont opérer des enfants qui prennent de leur temps, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais je suis incapable de vous dire si ces hommes ou ces femmes sont sauvés. Je l'espère, je le souhaite. Mais qui peut dire qui est sauvé et qui ne l'est pas? Alors il est certain que les œuvres parlent de ce qu'il y a dans le cœur. C'est certain. Mais ce n'est pas un moyen de salut. C'est une conséquence de la transformation intérieure qui s'opère lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais quand bien même je donnerai tous mes biens, quand bien même je donnerai tout mon temps, quand bien même je donnerai ma vie. On connaît ces processions religieuses dans certains pays d'Amérique du Sud où certains vont se flageller, s'inciser. J'en ai même vu se faire crucifier. Oh, pas pour aller jusqu'à la mort, mais quand même aller jusque-là. Mais quel orgueil! Tout cela, c'est vain. Tout cela, c'est vain. On ne peut pas acheter le salut. Il nous est offert. Il nous est offert. Vous pouvez aller jusqu'à Lourdes, jusqu'à Paris, jusqu'en Nouvelle-Zélande en rampant pour faire vœu de pénitence. Mais tout cela, c'est sans valeur. Tout cela, c'est de l'orgueil, c'est dire, mais voilà, moi je peux, par ce que je fais, par mes actes, par ma bonté, par ma soumission, par ma spiritualité, moi je peux acquérir le salut, moi je peux me réconcilier avec Dieu. Mais non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ce que tu peux, c'est accepter ce que Dieu te donne. Ce que tu peux, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur, ça, tu le peux. Même une pratique religieuse ne sauve pas. Une pratique religieuse ne sauve pas. Tu peux faire tous les pèlerinages du monde. Tu peux être présent à tous les offices. Tu peux être présent à tous les cultes, à toutes les réunions. C'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Ça, ce sont des conséquences du salut. Si tu les fais dans un but d'acquérir la grâce de Dieu, tu fais erreur. Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et l'apôtre Pierre de confesser, mais pourquoi imposer des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Mais personne, mes amis, personne ne peut remplir les exigences de Dieu. Personne n'arrive parfaitement à respecter toute la loi, tout ce que Dieu demande dans sa parole. Personne n'en est capable. Cela aussi, ce n'est pas un moyen de salut pour nous, parce que nous en sommes incapables. Nous en sommes incapables. Le seul qui y est parvenu, c'est Jésus. Et c'est pour cela qu'il est l'agneau parfait. C'est pour cela qu'il est l'agneau de Dieu sans tache. Et c'est pour cela que son sacrifice couvre un grand nombre de péchés. Amen. Ce que propose, je vais le relire pour que vous suiviez le fil. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman est là. Alors, ce n'est pas Élisée qui sort, hein. Là, ça a dû être dur pour lui déjà. C'est un serviteur qui vient le voir. Ça n'a pas dû être facile à avaler pour un homme aussi important que lui. Mais il a la solution. Il a la solution. Voilà, tu es malade, tu as la lèpre, pas de problème. Tu veux être guéri, pas de problème. Voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que ça convient à Naaman? Mais ça ne lui convient pas. Hein. Il fut indigné. Comment? Moi, un grand général, c'est même pas le prophète qui vient me voir. Quoi? Comment? Un grand général, il faudrait que j'aille me tremper dans ce ruisseau boueux qu'est le Jourdain. Quoi? Comment? Mais ce n'est pas possible. Quoi? Comment? Il faudrait que je reconnaisse que je suis pécheur. Quoi? Comment? Il faudrait que je reconnaisse que j'ai fait de la peine à Dieu. Quoi? Comment? Il faudrait que j'incline le genou, que je lui demande pardon pour ce que j'ai fait. Mais monsieur, moi je n'ai jamais tué personne. Mais monsieur, moi je n'ai jamais volé. Mais comment? Qu'est-ce que tu me demandes là? Naaman est indigné. Il n'est pas du tout satisfait de la solution qu'on lui propose. Il a la maladie, il veut le remède, mais celui qu'on lui propose n'est pas à son goût. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il avait imaginé autre chose. On ne va pas le relire, on l'a lu tout à l'heure. Il avait imaginé que le prophète viendrait, qu'il agiterait la main sur l'endroit où il a mal. Et on imagine des choses. Les hommes imaginent des choses. Ils imaginent des moyens pour s'attirer les faveurs de Dieu. Ils imaginent des moyens pour être sauvés. Ils imaginent des moyens pour vivre une éternité quelque part avec quelqu'un. Ah mais on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que si tu veux être guéri, il faut que tu te trempes 7 fois dans le Jourdain. Pas une fois, pas 2 fois, pas 4 fois et demi, 7 fois. La vérité, c'est que si tu veux être sauvé, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. La vérité, c'est que si tu veux être sauvé, il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Il faut que tu reconnaisses que jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es pas soucié de Dieu. La vérité, c'est que si tu veux être sauvé, il n'y a pas d'autre moyen que de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. Ça, c'est la vérité. Après, libre à toi, comme Naaman, d'être indigné ou de l'accepter. Libre à toi de choisir, d'accepter, de recevoir. Jean 19, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. C'est Dieu qui fixe les règles. C'est Dieu qui fixe les règles. Qui c'est le créateur de toutes choses? Qui c'est qui peut accepter ou refuser que nous entrions dans son ciel? C'est qui peut accepter ou refuser que nous passions l'éternité avec lui? L'homme a une fâcheuse tendance à inverser les rôles. La vérité, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. Il est la vérité. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas l'un des fleuves de Syrie qui allait guérir Naaman. C'est le Jourdain. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. C'est ça le plan de Dieu pour les hommes. Le plan de Dieu pour Naaman, pour qu'il soit guéri, il lui a été énoncé précisément. Voilà le plan de Dieu pour les hommes. Jésus est mort à la croix pour nous permettre d'échapper à la colère de Dieu. Et il faut accepter. Vous pouvez trouver cela trop simple. Vous pouvez trouver cela sectaire. Vous pouvez trouver cela obtus. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le péché est une lèpre mortelle. Il vous conduit à la mort terrestre et à la mort éternelle. Alors je termine. Est-ce que tu acceptes le traitement proposé par Dieu? Est-ce que tu l'acceptes? Ce traitement, c'est le sang de Jésus. N'imagine pas autre chose. Ne crois pas qu'il existe autre chose. Pour être purifié de tes péchés, tu dois accepter humblement la grâce de Dieu. C'est Jésus qui te donne accès à la vie éternelle. Et que s'est-il passé lorsque Naaman, sur les conseils de ses serviteurs, a fini par accepter la solution que Dieu lui proposait par l'intermédiaire du prophète? Eh bien, il s'est trempé dans le Jourdain. Et à la septième fois, il était pur. Il était guéri. Je suis certain qu'il n'a pas regretté. Et qu'est-ce qu'il confesse de sa bouche? Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Il reconnaît que Dieu est Dieu. Que cet après-midi, tu puisses reconnaître que Dieu est Dieu. Que cet après-midi, tu puisses accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est simple, mais il faut accepter de se soumettre, accepter de s'humilier. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 19, c'est pas plus compliqué que cela. On s'incline et on prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour le traitement du péché que tu as mis en œuvre. Seigneur, merci pour cette solution, pour cet échappatoire à la mort éternelle qui nous attend. Seigneur, ma prière cet après-midi, c'est que s'il y avait quelqu'un qui était encore atteint de cette lèpre qui va le conduire à la mort, oh, que cet après-midi il rende les armes, qu'il accepte de fléchir les genoux et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils et que par amour, il est venu mourir sur la croix et que par amour, il t'offre, il t'accorde la solution à ce problème du péché. Il veut devenir ton sauveur. Il veut devenir le conducteur de ta vie. Il veut être celui qui s'occupe de tes affaires. Mais il te demande la permission parce qu'il te respecte et qu'il a de l'estime pour toi. Il ne veut certainement pas que tu le suives par obligation. Il ne veut certainement pas que tu le suives comme étant forcé. Non, tu as le choix. Fais le bon choix cet après-midi. Choisis la vie. Choisis la vie. Est-ce que quelqu'un cet après-midi veut choisir la vie? Oh, c'est pas devant moi que vous le faites, hein, c'est devant Dieu. Est-ce que quelqu'un cet après-midi veut choisir la vie? Si tu veux choisir la vie, simplement tu dis à Dieu, tu lèves ta main à ta place et tu dis à Dieu, je choisis la vie. Je choisis la vie. Je veux que tu deviennes mon sauveur est mon Seigneur. Je sais que quoi que je fasse, je n'arriverai pas à acquérir cette communion avec toi parce que mon péché est devant toi. Est-ce que quelqu'un veut faire cette démarche? Quand vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. Seigneur, tu vois ceux qui ont levé la main. Je te prie de les bénir. Je te prie de venir habiter dans leur cœur. S'il te plaît, mon Dieu, tu les remplis de toi. Tu les transformes et tu les conduis jusque dans la vie éternelle. Éclaire leur cœur, ouvre leurs yeux et qu'ils puissent te suivre. Qu'ils puissent te suivre, expérimenter ce qu'est une vie conduite et dirigée par Jésus. Soyez bénis, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.